Bon réveil, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. La France, premier pays du monde à garantir dans sa constitution la liberté de la femme d'avoir recours à l'IVG. Nous reviendrons largement sur cette décision forte des parlementaires réunis à Versailles et sur ce qu'elle implique concernant la représentation symbolique de l'avortement.
Les États de l'Union européenne se sont accordés avec les eurodéputés pour verdir nos emballages avec beaucoup de dérogations.
Et puis nous serons en Louisiane à la fin de ce journal avant le Super Tuesday, étape clé des primaires américaines. Après ce journal, votre question du jour, Marguerite Caton.
Nous parlerons de la fast fashion. Une régulation est-elle possible ?
La victoire est plus que symbolique pour des millions de femmes dans le monde empêchées d'avorter. Le vote hier de 780 parlementaires réunis en congrès à Versailles est un signal fort, en effet, donné par la France à toutes les autres démocraties. Un signal pour la liberté des femmes et la consolidation d'un droit acquis de haute lutte. La garantie de la liberté d'avorter, inscrite désormais dans la Constitution française. Un discours présidentiel à ce sujet doit avoir lieu ce vendredi, le 8 mars, journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Autre première à cette occasion, la cérémonie de scellement, soit l'apposition du sceau de l'État sur la loi constitutionnelle, sera ouverte au public. Hier, l'une des paroles politiques marquantes devant le Congrès fut celle du sénateur centriste de l'Allier, Claude Maluret, président du groupe Les Indépendants au Sénat, mais aussi médecin de profession, qui a tenu à faire le récit de l'une de ses expériences qu'il n'avait, dit-il, jamais racontées. Écoutez-le.
J'avais 25 ans, j'étais coopérant, médecin-chef d'un petit hôpital dans un coin perdu d'un pays du Sud. Un jour, j'ai vu surgir dans mon bureau une jeune femme, 17, 18 ans peut-être, les joues rondes d'une adolescente, toute rouge et inondée de larmes. Une expression mêlée de terreur et d'incompréhension dans le regard. Les bras maintenus par deux gendarmes qui l'encadraient et la poussaient dans la pièce sans ménagement. Le matin même, un voisin avait découvert le cadavre d'un nouveau-né à peine enfoui dans le sol. Et l'on me demandait désormais d'examiner la suspecte pour savoir si elle venait ou non d'accoucher. J'étais pétrifié. Je savais parfaitement pourquoi cette jeune femme était là, dans un pays comme tant d'autres, où fille-mère, c'était le mot de l'époque, signifiait bannissement social et déshonneur pour la famille. J'imaginais sa vie au cours des derniers mois, engrossée par un séducteur de barrières, peut-être comme souvent par un parent, découvrant d'abord effrayé son retard de règles, puis voyant son ventre s'arrondir, accouchant seule en se cachant, enterrant maladroitement l'enfant sur place, folle de douleur et de culpabilité, puis rentrant chez elle et lavant ses vêtements dans la terreur d'être découverte. Chez nous, aujourd'hui, ces histoires n'existent plus. En étant le premier pays au monde à garantir cette liberté dans notre Constitution, nous allons susciter, sinon un exemple, du moins une référence, des avancées, j'espère, qui rapprocheront le jour où, comme ici, les femmes seront libérées de la peur, de la culpabilité et de l'impuissance à maîtriser leur destin.
Le sénateur centriste Claude Maluret. Concernant concrètement l'accès à l'IVG, la loi ne devrait rien changer dans l'immédiat. L'avortement reste plus compliqué à pratiquer dans certaines régions. En revanche, sa représentation symbolique et la manière dont il est perçu dès lors qu'il est devenu un droit fondamental pourrait changer. Notamment cette idée reçue, selon les experts qui travaillent sur la question, que l'avortement serait toujours une épreuve pour la femme, en particulier une épreuve psychologique. Idée reçue que décryptent les chercheuses depuis leur expérience du terrain, c'est ce que nous explique Chloé Leprince.
Depuis 15 ans que Lucille Ruot enquête sur l'IVG, la sociologue met en évidence une petite phrase lancinante qui n'a eu de cesse depuis les lois Veil et la dépénalisation de l'avortement de faire de l'IVG un événement, comme on dit.
Toujours cette phrase qui est vraiment une ritournelle et qui n'est pas du tout interrogée. Oui, on le sait, l'IVG, c'est pas anodin. Les médecins me le disaient en entretien, mais aussi, c'est ce qui se disait en consultation pré-IVG, tous les points de crispation autour de cette constitutionnalisation, ça tourne toujours autour de cet objectif de réprouver la banalisation de l'avortement, qui est vraiment cette crainte des pouvoirs publics depuis la loi Veil.
Ça passe très concrètement par une étape, l'entretien psychosocial. C'était une volonté du législateur en 1975, 50 ans plus tard, alors qu'en moyenne une femme sur trois avorte dans sa vie. Cet entretien psychosocial est devenu facultatif, mais dans les faits, il est encore très souvent proposé aux femmes. Or, cet accompagnement émotionnel de l'avortement, entretenu comme une étape spectaculaire, contribue aussi à stigmatiser l'avortement. Ce qu'on postule, c'est que quand une femme avorte, elle va mal, explique la sociologue Laurine Tizi.
Les équipes d'IVG, très souvent, elles ont à cœur de prendre les femmes en charge correctement. Simplement, ça vient d'un a priori selon lequel l'IVG est toujours difficile. Et puis aussi, tout simplement, pour les équipes de santé, si les femmes vont bien avant et après être arrivées dans le service, le travail de soins, de care, d'accompagnement des professionnels n'est pas reconnu. Alors même que l'IVG, très concrètement, c'est pas très technique à faire. Quelque part, les professionnels de santé, c'est plus facile pour elles quand les femmes vont mal parce que ça fait sens et qu'elles peuvent les aider, les consoler, les accompagner.
Le problème, c'est que cette perception doloriste vient amplifier un bruit ambiant qu'on retrouve du côté des militants anti-avortement qui, eux, font leur chou gras de ce qu'ils appellent un syndrome post-avortement. Vigilance, rappelle Laurine Tizi.
C'est un syndrome qui n'est absolument pas reconnu par toutes les associations professionnelles, mais qui est utilisé comme rhétorique pour dire que s'il faut interdire ou en tout cas limiter l'IVG, c'est parce que l'IVG est dommageable pour le psychisme des femmes.
Et aujourd'hui, tous les avortements ne sont pas accueillis de la même manière, hein, chez les médecins notamment. Un avortement dit tardif suscitera plus de réticence. En France, on avorte désormais jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, mais aussi l'IVG d'une femme qui aurait déjà avorté par le passé ou encore celle qui refuserait la pilule ou le stérilet dans la foulée de son IVG.
Chloé Leprince. Les médias français contre Twitter, c'est à gros traits la confrontation qui s'est tenue hier devant le tribunal judiciaire de Paris entre plusieurs entreprises de presse et X, anciennement Twitter. Les groupes Le Monde, Le Figaro, Les Échos, Le Parisien et l'AFP ont assigné le réseau social en justice dans un dossier qualifié de complexe par les juges et dont l'enjeu est d'obtenir pour les médias l'application des droits voisins des droits d'auteur. Les droits voisins qui concernent, on le précise, les artistes interprètes, les producteurs et les entreprises de communication audiovisuelle qui espèrent obtenir rémunération de la part de X dès lors que la plateforme utilise leurs articles. Pierre Repère.
La médiation entamée à l'été dernier n'a pas permis de trouver un terrain d'entente. C'est donc au tribunal de justice que s'est déroulée une audience tournée autour des droits voisins du droit d'auteur. Instituée en 2019 par une directive européenne, ces droits permettent aux journaux et aux agences de presse d'être rémunérés par les plateformes en ligne lorsqu'elles utilisent leur contenu. Pourtant, jusqu'ici, le réseau social X a catégoriquement refusé de transmettre aux éditeurs de presse et à l'AFP les informations qui doivent leur permettre de calculer cette rémunération. Selon l'avocate de la plateforme, Maître Leroux, X, anciennement Twitter, estime en effet qu'il n'est pas soumis aux droits voisins. La raison, ce sont les utilisateurs, voire les médias eux-mêmes, qui postent des informations en ligne et non pas le réseau social. Pour l'avocat de l'AFP, Maître Guinaud Delry, le dossier de la défense est un écran de fumée et de contre-vérité. Il a donc demandé une provision de 400 000 euros. L'avocat des groupes de presse Le Monde, Le Figaro et Le Parisien Les Échos, Maître Limbourg, s'est quant à lui employé à montrer comment la plateforme génère des revenus publicitaires en les adossant à des postes d'articles de presse. Rappelant qu'Elon Musk a promis de faire du réseau social la source d'information la plus fiable, l'avocat a trouvé extraordinaire que X soutiennent ne pas utiliser les contenus journalistiques. D'autant plus que, comme l'ont rappelé les avocats de l'accusation, d'autres plateformes en ligne, telles Google ou encore Facebook, ont d'ores et déjà accepté de rémunérer certains médias pour l'utilisation de leurs contenus.
Pierre Repère.
7h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. 189 kilos de déchets par habitant de l'Union européenne en 2021, c'est ce constat qui a amené Bruxelles à un plan de verdissement de ses emballages.
Ils devront être tous recyclables d'ici 2030. Quant aux contenants plastiques à usage unique dans la restauration, ils seront interdits à terme. Autant de mesures accompagnées de dérogations âprement négociées. Et pourtant, ces déchets polluent les sols et constituent près de la moitié des déchets marins. Les eurodéputés et les représentants des 27 pays de l'Union viennent donc de trouver un accord pour en limiter très progressivement l'usage. À Bruxelles, Angélique Bouin.
La loi imposera plus de collecte, de recyclage et limitera les emballages inutiles ou à usage unique, en particulier ceux qui sont en plastique. Dans les restaurants, pour les aliments et boissons consommés sur place, on ne pourra plus, par exemple, proposer de contenants plastiques jetables, mais on trouvera toujours du sucre ou du sel en dosette. L'emballage papier reste autorisé. Les sacs plastiques très légers, déjà interdits en France dans les supermarchés, le seront désormais partout ailleurs dans l'Union. Fini aussi à horizon 2030 les petites bouteilles de shampoing dans les hôtels ou les films pour emballer les valises dans les aéroports. Dans un peu plus de 5 ans, 100% des cartons, gobelets, emballages devront par ailleurs être recyclables, sauf dérogation comme pour les boîtes de camembert. Les Européens devront aussi faire de gros efforts pour mieux collecter les bouteilles plastiques et les canettes, sous peine de se voir imposer un système de consignes. Certains produits nocifs pour la santé, comme les PFAS, présents dans les emballages alimentaires, comme les boîtes de pizza, seront aussi interdits au-delà de certains seuils. Le texte fixe enfin enfin des objectifs de réduction des déchets d'emballage de 5% d'ici 2030 par rapport au volume de 2018, de 10% 5 ans plus tard et de 15% d'ici 2040.
Israël rappelle son ambassadeur à l'ONU depuis le début du conflit à Gaza. L'ONU ne cesse de mettre l'accent sur la situation humanitaire provoquée par les représailles israéliennes contre le Hamas. L'État hébreu, lui, ne cesse de répliquer rapport contre rapport, accusation contre accusation. Dernièrement, c'est l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, qui a été mise en cause par le gouvernement Netanyahou, qui l'accuse, certains de ses membres en tout cas, d'avoir participé au massacre du 7 octobre. Bref, jamais depuis la création d'Israël en 1948, les relations entre les deux entités n'avaient été aussi mauvaises. À Jérusalem, la correspondance de Thibault Lefèvre.
C'est une crise qui se déroule en trois temps. Fin janvier, Israël accuse 12 employés de l'UNRWA d'avoir participé à l'attaque terroriste du 7 octobre. Ils sont immédiatement licenciés, mais les États-Unis et une dizaine d'autres pays suspendent les financements de l'agence. Deuxième étape, hier matin, le New York Times révèle que l'UNRWA s'apprête à publier une enquête à charge contre Israël. Le rapport pointe du doigt les mauvais traitements et les actes de torture infligés à une centaine d'habitants de Gaza depuis le début de la guerre. Certains seraient morts en détention. En décembre dernier, nous diffusions le témoignage de Mahmoud, 14 ans, arrêté dans le quartier d'Al Zaytoun, c'est dans la ville de Gaza.
Il y a 4 jours, on s'est réveillé et les chars de l'armée israélienne étaient à notre porte. On s'est rendu, ils nous ont séparés, les hommes et les femmes. On a été battus. Ils nous ont servi du riz par terre.
La réponse n'a pas tardé. Hier soir, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a diffusé l'enregistrement d'une conversation avec un employé de l'UNRWA accusé d'avoir participé à l'enlèvement d'une otage.
Ces terroristes sont employés par l'UNRWA. Les dons envoyés à but humanitaire financent des meurtriers de masse et des violeurs.
Sur les 13 000 employés de l'UNRWA à Gaza, plus de 450 seraient, selon les autorités israéliennes, des miliciens du Hamas.
C'est l'un des objectifs de croissance les plus modestes depuis des décennies, ce que va annoncer le gouvernement chinois lors de la session annuelle du Parlement, 5% pour 2024, un chiffre similaire à celui de l'année dernière et qui traduit les difficultés économiques que subit la Chine actuellement. On part aux États-Unis pour terminer ce journal. C'est aujourd'hui le Super Tuesday, soit la journée phare des primaires pour l'investiture en vue de la présidentielle. Près d'un tiers des États américains désignent leurs candidats. Pas de surprise attendue côté démocrate. Joe Biden est seul en scène, ou presque. Idem pour Donald Trump, qui écrase jusque-là sa rivale, Nikki Haley. Mais c'est aussi l'occasion de sonder sur le terrain l'état des forces électorales en présence à 8 mois de l'élection. Focus dans ce journal sur l'électorat noir, qui avait permis à Joe Biden de l'emporter en 2020, mais qui montre aujourd'hui quelques signes de lassitude. Reportage en Louisiane, près de la Nouvelle-Orléans, de notre envoyé spécial Loïc Loury.
Pas de politique pendant le culte, affirme le pasteur de cette église baptiste de Houma. C'est à la sortie que l'on demande aux fidèles, comme Shannon, s'ils iront bien voter à nouveau pour Joe Biden.
Oui, je suis démocrate et j'irai voter pour lui. Le pays va franchement mal en ce moment. Mais Joe Biden a le cœur plein d'amour et il veut le meilleur pour tout le monde.
4 ans après l'avoir emporté avec le soutien écrasant des Afro-Américains, Joe Biden a toujours la cote, d'autant plus face à l'épouvantail Donald Trump, assure le pasteur Smith.
Il veut être dictateur, mais il ne s'agit pas d'être un tyran. Il faut suivre la volonté du peuple. Si on lui offre une seconde chance, on va avoir droit à un enfer.
Le milliardaire, pourtant, peut se réjouir. Son adversaire démocrate a vu sa popularité auprès de l'électorat noir passer de 87 à 63%. Trichia n'a plus l'air très sûr de son choix.
Oui, je vais voter, bien sûr, mais pour qui, je ne sais pas. On verra bien. Je n'ai peur de rien.
After all, it's God's choice.
Ce sera la volonté de Dieu, conclut le pasteur Scobie, mais plus vraisemblablement celle des électeurs, dont plus de 34 millions d'Afro-Américains.
Et à 7h25, le reportage de la rédaction sera consacré lui aussi au Super Tuesday avec un reportage à Denver, Colorado, ville refuge pour les migrants arrivés du Mexique. Retour en France avec un mot rapide du ciel de ce jour. Nuageux presque partout sauf en Méditerranée, compté cet après-midi de 7 à 18 degrés. C'est la fin de ce journal et la suite des Matins de Culture avec vous.
Absolument, merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Avec la question du jour de Marguerite Caton, dans quelques secondes, face Fast fashion, une régulation est-elle possible ?